est midi, bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Vous êtes en direct sur Radio Orient. Les jours qui se suivent et cette canicule qui s'intensifie dans tout le pays, le pic est attendu aujourd'hui avec plus de 50 millions de Français concernés par la vigilance rouge. Alors que la France fait face à de nouvelles fortes chaleurs, l'urgentiste Patrick Pelou alertait sur la canicule meurtrière de 2003. Elle avait provoqué la mort de 22 000 personnes. Nous essaierons de savoir pourquoi cette fournaise en France est plus dangereuse que dans les pays du Sud, notamment en Afrique du Nord. L'enclave palestinienne en proie à une grave crise humanitaire. Israël et le Hamas s'accusent presque quotidiennement de violer le cessez-le-feu dans le territoire dévasté. Alors, quelle future gouvernance pour la bande de Gaza ? Réponse dans ce journal. Le Maroc sera en 16e de finale de la Coupe du Monde. Une victoire 4-2 contre Haïti. Le match était diffusé au Grand Rex de Paris cette nuit pour le plus grand plaisir des supporters des Lions de l'Atlas. Vous les écouterez. On commence ce journal par cette situation totalement exceptionnelle. La vague de chaleur continue de déferler dans tout le pays. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a même annoncé tout à l'heure qu'il activait le plan Orsan qui mobilise le système de santé au niveau 3 le plus élevé pour faire face à la canicule qui touche la France depuis plusieurs jours. Il implique entre autres le renforcement des effectifs hospitaliers. La nuit dernière donc a été suffocante, probablement même la nuit la plus chaude jamais enregistrée. Clara Dubanchet, c'est une nouvelle journée caniculaire qui commence aujourd'hui.
On vous l'a annoncé hier, le record de la journée la plus chaude jamais enregistrée en France a été battu il y a deux jours. Eh bien, ce record a déjà été dépassé dès la fin d'après-midi hier. Ce n'est d'ailleurs pas le seul record battu. La nuit a aussi été répertoriée comme la nuit la plus chaude jamais enregistrée. La température moyenne a atteint les 30 degrés du jamais vu. Et pourtant, aujourd'hui, le pic de la canicule devrait être atteint. Emmanuel Grégoire, maire de Paris, alerte sur la hausse de la mortalité à cause de la canicule ce matin sur TF1. On l'écoute.
Évidemment, la mortalité est en hausse, mais ce n'est pas à moi de communiquer là-dessus, c'est aux autorités sanitaires de le faire. On a à peu près tous les indicateurs qui sont dans une situation difficile. C'est à la fois les recours au SAMU, les recours aux pompiers, les admissions aux urgences, évidemment les décès. Et donc, je le redis, des mesures d'urgence sont nécessaires pour se protéger, pour s'hydrater et pour surtout ne pas croire qu'on est invulnérable.
Emmanuel Grégoire, au micro de TF1 ce matin, appelle à la prudence pendant cet épisode caniculaire hors du commun en France. Avant cette situation exceptionnelle, jamais plus de 20 départements n'avaient été placés en même temps en vigilance rouge dès le début du dispositif en 2004. Rappelons-le, aujourd'hui, on compte 72 départements en zone rouge, c'est-à-dire plus du trois quarts du territoire français.
Et va-t-on insister très prochainement, Clara, à une période d'accalmie ?
Météo France annonce la levée pour 11 départements du niveau maximal d'alerte à la canicule dans l'ouest du pays. Ce soir, à partir de 22h, une baisse des températures sur la côte atlantique devrait laisser place à l'orage et à un ressenti tropical, donc où l'humidité et la chaleur seront encore bien présentes.
Merci beaucoup Clara Dubanchet. Et puis on l'a appris dans la matinée, un enfant de 3 ans a été retrouvé mort dans une voiture à Saint-Gratien dans le Val-d'Oise en pleine vague de chaleur. Les secours ont été appelés vers 19h après la découverte de l'enfant en arrêt cardio-respiratoire dans le véhicule familial. Alors que la France connaît une nouvelle vague de chaleur, les souvenirs de l'été 2003 resurgissent inévitablement. Cette année-là, souvenez-vous, une canicule exceptionnelle avait frappé le pays, provoquant la mort de près de 22 000 personnes, selon les autorités sanitaires. Et c'était Patrick Pelou qui était urgentiste, qui avait alerté évidemment sur cette canicule. On lui a posé cette question. Pourquoi cette fournaise en France est plus dangereuse que dans les pays du Sud, notamment en Afrique du Nord, bref, dans les pays qui ont l'habitude des fortes chaleurs. Écoutez le docteur Patrick Pelou qui préside l'Association des médecins urgentistes de France.
Votre question est très judicieuse parce que tout est là. D'abord, je vous rappelle ce qu'avait dit notamment le roi du Maroc, Hassan II, quand il avait dit, vous savez, chez nous, il n'y aura jamais de maison de retraite parce que les personnes âgées restent avec la famille. Voilà, nous sommes un pays où on nous a vissé le cerveau en disant, quand une personne est âgée et vieille, elle va à l'EHPAD. Bon, ça crée toute une économie, que d'ailleurs les grands milliardaires ont appelé l'or gris, hein, n'est-ce pas ? Donc, c'est n'importe quoi. Mais surtout, vous avez la culture dans les pays d'Afrique du Nord, la culture de la chaleur. Donc, ils savent comment faire une maison avec des courants d'air. Ils savent comment mettre des gros murs, des petites fenêtres, des petits... Ils ont compris tout ça. Nous, on est en retard de tout. Et on a eu, bien sûr, cette culture de « bah, il fait chaud, on met la clim », ce qui est complètement ridicule, et qui va entraîner une surconsommation d'énergie, et donc qui va engendrer le réchauffement climatique. Vous voyez, c'est là où vous apercevez qu'on avait une équation, on a raté un truc. Le réchauffement climatique est maintenant inéluctable. Et voilà, et vous savez, là, on est le 24 juin, personne ne peut vous dire très précisément comment ça va se passer au cours des trois prochains mois. Ça va être très compliqué.
Est-ce que la France devrait engager une forme de coopération avec ces pays pour trouver des solutions ensemble ?
Je pense que, notamment la coopération avec la culture architecturale et anthropologique des mondes de l'Afrique du Nord serait nécessaire, bien sûr. Bien sûr, j'ose espérer que beaucoup de bâtisseurs y ont réfléchi, mais je pense qu'ils n'ont pas réussi à aller très loin dans ces analyses. En tout cas, on ne le voit pas beaucoup sur le terrain, bien sûr.
C'était le docteur Patrick Pelou qui, je le rappelle, préside l'Association des médecins urgentistes de France au micro de François-Xavier de Calonne. Et puis on vous le rappelle, Radio Orient, pensez absolument à vous hydrater aujourd'hui, ne faites pas d'activité sportive, restez à l'ombre ou bien même restez chez vous si vous le pouvez et prenez surtout des nouvelles de vos proches. Dans le reste de l'actualité, le porte-parole de la diplomatie iranienne a accusé aujourd'hui l'OTAN de complicité contre l'Iran après que le secrétaire général de l'OTAN a affirmé que 500 avions américains ont décollé de bases américaines en Italie pour soutenir l'opération militaire israélo-américaine Epic Fury lancée contre l'Iran le 28 février dernier. Alors que des négociations de paix entre le Liban et Israël sont en cours à Washington, le Hezbollah a accusé Israël de nouvelles violations de la trêve après une frappe meurtrière dans le sud de Liban. L'enclave palestinienne en proie à une grave crise humanitaire. Israël et le Hamas s'accusent presque quotidiennement de violer le cessez-le-feu dans le territoire dévasté. Alors cette question, quelle future gouvernance pour la bande de Gaza ? Une réunion sur la gouvernance et la reconstruction est prévue les 30 juin et 1er juillet prochains. François-Xavier de Calonne.
Oui, c'était une annonce du gouvernement chypriote et d'un responsable du fameux Conseil de la paix voulu par Donald Trump. Le comité de technocrates palestiniens censé assurer la gestion de ce territoire sera au rendez-vous. Alors cette réunion devrait rassembler les différentes instances qui œuvrent dans le cadre du Conseil de la paix. Objectif, permettre un redémarrage et un recalibrage après 6 mois. Peu concluant, vous vous en souvenez, hein, le plan Trump visant à mettre fin à la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque du Hamas sur Israël a été validé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il a permis l'instauration en octobre d'un cessez-le-feu précaire. La deuxième étape du plan prévoit notamment un retrait israélien progressif de Gaza, le désarmement du Hamas et le déploiement d'une force internationale de stabilisation. Alors pour le moment, rien de tout cela n'a vu le jour. Fin février, le Hamas avait dit être ouvert à la présence d'une telle force, mais sans ingérence dans les affaires intérieures de Gaza. Israël affirme de son côté contrôler désormais au moins 70% de la bande de Gaza. Dans ce contexte, Israël et le Hamas s'accusent quasiment chaque jour de violer le cessez-le-feu.
François-Xavier de Calonne. Et puis on va terminer sur ce journal par la Coupe du Monde de football avec un seul point avant la troisième journée. L'Afrique du Sud a réussi l'exploit de décrocher sa qualification en 16e de finale en s'imposant face à la Corée du Sud 1-0. Les Bafana qui franchissent le premier tour du mondial pour la première fois de leur histoire. Les hommes d'Hugo Broos, le sélectionneur belge de l'Afrique du Sud, croiseront le Canada dimanche prochain, dimanche 28 juin à 19h. Et dans la nuit, cette nuit, une autre rencontre passionnante s'est déroulée. Le Maroc a battu Haïti sur le score de 4-2. Le match a été suivi par la communauté marocaine de Paris au Grand Rex, où vous étiez, Salma Darlaoui.
Cette nuit à Paris, les supporters marocains célébraient la victoire 4 à 2 face à Haïti. Une victoire qui assure la qualification pour les 16e de finale au Lion de l'Atlas.
Écoutez, le match, il était hyper stressant. On croyait qu'on allait gagner au début. On croyait qu'on allait être convaincu par 1-0. Mais c'était hyper stressant, c'était hyper divertissant. Et Inch'Allah, Inch'Allah, la finale. Inch'Allah, la Coupe du Monde, pourquoi pas. Et Dima Maghreb.
Incroyable, on a eu chaud. C'est toujours la même chose. On a les occasions, mais on ne les finit pas. Là, Alhamdoulilah, c'est passé. On espère que ça va passer jusqu'au bout.
Je m'appelle Saïd. Là, je viens de sortir du Grand Rex. J'étais avec ma mère et ma soeur et mon père. Franchement, c'était une belle soirée. On a gagné, Alhamdoulilah, 4-2. C'était pas le meilleur match. On doit le dire quand même, on doit l'avouer. Mais c'était un bon match. Il n'y avait pas de rebondissement. Tout ça, franchement, super match, j'ai rien à dire.
Mais alors, nous avons demandé aux supporters marocains qui ils espéraient affronter lors des 16e de finale.
Juste pour les divertissements, le Japon.
Le Japon. Parce que moi, mes amis, ils supportent le Japon. Et j'ai envie qu'il y ait ce choc Maroc-Japon, qu'on les sorte aussi là.
La Suède, ça va en fait, ils sont pas plus forts que les Japonais ou les Pays-Bas. Mais sinon, n'importe quelle équipe, on va gagner. Et Dima Maghreb.
Je pense Pays-Bas peut-être, ça peut être un très beau match.
Pourquoi
je pense Pays-Bas.
Pourquoi?
Parce que c'est pour moi, c'est à peu près le même profil d'équipe les deux. Et moi plus c'est un match intense et très intense et avec beaucoup de suspense, plus ça m'intéresse, plus il y a plus de palpitations, tout ça. Donc franchement Pays-Bas ça pourrait être pas mal.
Comme vous venez de l'entendre, les supporters marocains sont heureux de cette victoire qui leur assure la qualification au 16e de finale. La Tunisie, elle, jouera cette nuit contre les Pays-Bas. Malheureusement, la Tunisie est déjà éliminée, donc ils joueront pour l'honneur. Et une autre équipe du Maghreb qui, elle, peut espérer encore se qualifier en 16e de finale, l'Algérie, qui jouera, elle, le dimanche 28 juin contre l'Autriche.
Et comme vous l'avez entendu dans ce reportage d'Imam Arleb, évidemment, merci à Salma Dakhlaoui pour ce reportage. Et la suite de la dernière journée de la phase de groupe, aujourd'hui à 22h, Allemagne-Équateur. Et enfin, Curaçao-Côte d'Ivoire. C'est la fin de notre édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Moi, je vous retrouve à 13h pour le prochain flash d'information.